ce lieu que tu avais préparé il y a des années déjà, pour qu'un jour, nous puissions, en 1998, nous retrouver sous ce même ciel où d'autres âmes ont entendu ta parole, nous ont précédés dans le royaume éternel. Nous te bénissons de ce que nous jouissons encore de tous ces biens et nous te demandons de bénir nos études et que nous puissions nous en souvenir dans la vie quotidienne et que ce camp ait un prolongement tous les jours de notre existence jusqu'à ce que tu viennes. Car c'est toi que nous attendons et nous te souhaitons. Nous souhaitons d'être avec toi pour toujours, dans un lieu de perfection, de vie et de gloire. Merci de nous avoir fait la grâce de croire. Amen. Eh bien, mes amis, je vous l'ai dit que quand j'avais prié, Dieu m'avait donné ce texte qui est Jérémie 1, 17, pour corriger ce qui a pu vous induire en erreur. « Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. » Et quand j'ai supplié le Seigneur de me montrer ce qui pouvait correspondre aux besoins de ceux qui viendraient à ce camp, c'est l'épître de Paul à Tite, qui est la 12e de ses lettres, qui s'est imposée à moi. Comme nous l'avons dit, cet épître fait partie de ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Et on en compte trois, puisqu'on met à part le petit billet qui s'appelle la lettre à Philémon, et donc sur laquelle nous reviendrons aussi quand nous parlerons des serviteurs et des maîtres. Cette épître pastorale, donc, est accompagnée des épîtres de Paul à Timothée. Et nous l'avons divisé pour que nous puissions étudier plus à fond tous les versets. Et hier, nous avons commencé par souligner au début du culte que dans les quatre premiers versets sur lesquels nous nous sommes penchés, bien, nous pouvions découvrir les plus grandes vérités du christianisme, résumées en quatre versets. Vous vous souvenez peut-être de ces versets, nous allons les relire. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps, par le Dieu qui ne ment pas. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Donc, il n'est jamais question que Paul ait eu l'idée personnelle d'écrire à Tite. S'il a écrit à Tite, il l'a fait selon l'ordre de Dieu, son Sauveur. À Tite, dit-il, mon enfant légitime, en notre commune foi, et puis il a souhaité, comme il l'a fait pour les Romains, la grâce et la paix. Et nous soulignons hier que cette grâce et cette paix, c'est le sommaire des bénédictions de la foi. Et il souhaite cela de la part de Dieu le Père, qui est la source de toute grâce, et puis du Seigneur Jésus-Christ, qui est le canal qui nous a apporté cette grâce. Et vous remarquerez que nous le verrons, cette expression « Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, Dieu notre Sauveur » revient 3 fois dans toute l'Épître. Dieu est notre Sauveur par Jésus-Christ. Et ces vérités que j'ai soulignées, c'est que d'abord il est parlé de la foi des élus de Dieu. Donc dès les premiers versets, nous sommes mis en présence de cette élection. Et je voudrais dire tout de suite ici qu'il n'y a pas d'élection pour la damnation. Ce que Calvin pensait, nous le rejetons. Dieu n'a pas créé des êtres qu'il prédestinait au jugement éternel. Il voulait que tous les hommes soient sauvés. Mais il a élu dès les temps éternels, avant la création de chacun de nous, il nous a préconnus, connus à l'avance. Et cela s'est fait bien avant notre existence. Je dis pas seulement bien avant notre conversion, mais bien avant notre existence. Si nous croyons, eh bien, nous pouvons être sûrs que le Seigneur nous prédestinait à la vie éternelle. Mais ce que le Seigneur a voulu, il n'a pas voulu nous obliger de croire, il nous a demandé de croire à son amour. Mais une fois que l'on croit à son amour, eh bien, on a la certitude que le Seigneur nous avait prédestinés dès les temps éternels, c'est-à-dire avant la création du monde, comme il l'est dit dans les Éphésiens, nous sommes préconnus en lui dès avant la fondation du monde. Alors ça nous donne une assurance merveilleuse. Et ça correspond à ce que le Seigneur disait à ses disciples au chapitre 15 de Jean. Qu'est-ce qu'il leur disait? Je me souviens toujours, c'était à Hol que ça se passait. Il y avait une jeune femme qui était là, et au culte, et tout à coup, un frère a lu ce verset. C'est pas moi qui l'ai lu, c'est un frère dans l'assemblée où il y avait la liberté de l'esprit. Il a lu « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que votre fruit, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et à ce moment-là, cette personne qui venait du catholicisme s'est levée spontanément, et puis, vous ne pouvez pas empêcher une prière de ce genre, hein, elle dit « Comme c'est vrai, Seigneur, j'étais assez imbécile pour faire tout le mal que j'ai fait, et tu m'avais pourtant choisi. » C'est beau cela, n'est-ce pas? L'action de la parole sur un cœur. Comme c'est vrai, moi avec toute mon intelligence, elle avait étudié à Paris et bien d'autres choses, elle avait un tas de titres, eh bien, le Seigneur l'a touchée par cette parole. Elle disait, c'est vrai que c'est toi qui m'as choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Parce que on s'attribue toujours la conversion, hein, mais c'est une grâce qui nous a été faite de croire. Et nous bénissons Dieu de nous avoir fait la grâce de croire. Mais vous voyez, alors notre salut ne dépend pas seulement de notre décision, parce que justement, il y a des hauts et des bas dans notre vie, mais il dépend, notre salut, de l'amour de Dieu, d'un Dieu qui ne peut pas nous mentir. Et Il nous dit maintenant qu'il nous avait élus et que maintenant que nous croyons, nous savons que c'est vrai parce que nous croyons sa parole, parce que nous avons lu, c'est un Dieu qui ne peut pas nous mentir. Eh bien, souvenez-vous que dans l'épître de Tite, il est souligné que Dieu ne peut pas nous mentir. Donc, toute sa parole, vous pouvez la croire. Alors, nous avons souligné cette vérité de l'élection. On a pris quelquefois un exemple. Vous montez par un chemin difficile avec un grand fardeau sur le dos. Puis vous arrivez à un endroit où il y a une demeure, où il est écrit en grand, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous soulagerai. » Donc, une invitation à entrer. Alors, que voulez-vous faire? C'est une parole qui vous invite à entrer. Si vous le faites, vous entrez, et qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur? Un grand écriteau qui dit « Vous étiez préconnus dès avant la fondation du monde. » Alors, vous savez que vous êtes à la vraie place, que vous étiez attendu, et que votre salut est une réalité que vous ne pouvez pas perdre. On ne perd pas son salut. On peut perdre sa couronne, comme nous aurons l'occasion de le voir, si nous ne sommes pas fidèles, mais le salut qui a été acquis par le sang précieux de Christ, on ne le perd pas. Alors, il y a déjà ces grandes vérités dans ces premiers versets. Et puis, nous avons souligné que nous avions la connaissance de la vérité. Mais cette connaissance de la vérité, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel concernant le salut. La connaissance de la vérité, c'est une connaissance qui est selon la piété. C'est-à-dire que c'est une connaissance qui nous a mis en relation avec Dieu. Nous avons une relation avec Dieu. Quand on connaît le Seigneur, on est mis dans une relation avec Dieu lui-même. La piété, dans l'Écriture, c'est tout ce qui concerne notre relation avec Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il est sauvé, c'est quelqu'un qui doit manifester qu'il est en rapport, en relation avec Dieu. Non pas parce qu'il va au culte tous les dimanches, mais que sa vie, il la passe dans la communion avec le Seigneur. Vous me direz, oui, mais nous sommes pris par toutes sortes d'occupations, mais ces occupations, c'est Dieu aussi qui nous les donne, mais il voudrait que dans nos occupations, nous le fassions toujours intervenir. Et ne pensez pas que Dieu ignorerait une seule des occupations des hommes. Il connaît toutes vos occupations et il peut vous aider, vous conseiller et vous bénir dans n'importe quelle occupation et sous n'importe quel patron ou quel maître, dans n'importe quel état, le Seigneur est là et nous pouvons aller à lui sans cesse. Prier sans cesse, comme nous l'avons dit souvent, ce n'est pas marmotter des prières ou calculer le temps que nous mettons dans la prière pour pouvoir dire, vous savez, moi, j'ai prié toute la nuit, cette nuit-là. Et quand vous dites cela, quelle tête avez-vous? Quand vous allez dire que vous avez prié toute la nuit, une longue tête, vous ne vous êtes pas même rasé le matin parce que vous étiez fatigué. Non. Quand on a vraiment prié, si on l'a fait, on n'a pas besoin de le dire. On le voit, on le sait. Moïse, quand il est redescendu de la montagne, même lui-même ne s'était pas regardé le visage, hein, il n'y avait pas de miroir là-haut du Sinaï. Alors, quand il est descendu, eh bien, son visage rayonnait, mais c'est les autres qui ont vu que son visage rayonnait. Si vous dites que vous avez prié toute la nuit, eh bien, votre visage devrait aussi être rayonnant et non pas tiré et fatigué, parce que la prière doit nous reposer. même si elle est faite avec force. Alors, nous avons une connaissance de Dieu qui est selon la piété, c'est-à-dire qui est en relation avec ce que Dieu est lui-même. Et qu'est-ce que Dieu est? Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de paix, il est le Dieu de la joie. Et qu'est-ce qu'il nous a promis? Eh bien, l'espérance, on l'a vu ici, c'est une de ces vérités que j'ai soulignées, l'espérance de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, quand est-ce qu'elle était promise, selon le texte? Avant la création, n'est-ce pas? Elle était promise dès les temps éternels, donc avant la création, par un Dieu qui ne peut pas nous mentir. Donc, vous croyez cette promesse. Puis, il est dit que la manifestation de la parole de Dieu a eu lieu en son temps. Quand est-ce que ça a eu lieu, la manifestation de la parole de Dieu? À quel moment a eu lieu la manifestation de la parole de Dieu? Quand Jésus est venu, n'est-ce pas? Avant que Jésus vienne, les Hébreux n'avaient pas une connaissance parfaite, totale, de la volonté de Dieu. On ne connaît la volonté de Dieu d'une façon complète et totale que par la venue du Seigneur Jésus. Il y avait bien la loi qui était écrite sur des tables de pierre, mais la loi ne nous apportait pas une connaissance complète de Dieu. La loi demandait notre effort. C'était un commandement. Mais avec Jésus, il est dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est cela le petit mot « en son temps ». Il a manifesté sa parole. Car Jésus, qu'est-ce qu'il était? Il était la parole de Dieu. Et elle a été manifestée en son temps, il y a bientôt 2000 ans, il y a eu un événement extraordinaire, historique, la naissance de Jésus. Et puis, cette naissance a été prêchée par qui en particulier? Dieu a choisi un homme pour apporter, même au monde païen, après que les Juifs eurent rejeté le Seigneur, eh bien, la parole a été confiée à l'apôtre Paul. Et quand est-ce qu'il lui a confié cette parole? Nous en avons juste dit quelques mots hier. Et à qui est-ce qu'il a confié cette mission? À un homme qui avait été un persécuteur, un blasphémateur, un outrageux. Si vous voulez voir ce que la puissance de Dieu peut faire dans une vie, souvenez-vous de l'apôtre Paul. J'ai pas voulu allonger hier sur l'apôtre Paul, parce que je pensais que vous étiez bien au courant de ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Quelques personnes ont peut-être pensé que j'avais beaucoup souligné ce qu'était Tite, mais n'est-ce pas que nous ne connaissions peut-être pas tellement Tite? Nous ne savions pas grand-chose sur Tite. Il fallait aller dans l'épître. Quelle épître? Aux Corinthiens, la seconde épître aux Corinthiens, pour que nous apprenions un peu ce que Tite était et pourquoi l'apôtre Paul l'avait choisi. C'était son enfant dans la foi, mais nous avons vu qu'après, il est devenu son frère. Paul l'appelait son frère, puis son collaborateur, son compagnon. Il y a toute une liaison qui a été faite entre Paul, père spirituel de Tite. Alors voilà les vérités que nous avons soulignées simplement hier matin pour introduire notre culte d'adoration. Et les vœux qui restent vrais pour nous aujourd'hui, c'est la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père. Alors, hier soir, nous avons cherché à répondre à ces trois questions. Qui était Tite? Combien de fois est-ce que nous trouvons le nom de Tite dans le Nouveau Testament? Douze fois, hein? Et puis, nous avons aussi cherché à savoir qui étaient les Crétois, les habitants de Crète, hein, et nous allons voir un peu ce qu'il est dit d'eux. Dans cette île de Crète, Paul a laissé Tite pour une tâche tout à fait précise, et maintenant, quand nous savons comment il a rempli sa tâche dans les églises de Corinthe, nous pouvons comprendre le choix de Paul. Pour les églises d'Éphèse, qui est-ce que Paul avait envoyé pour continuer son travail? Dans l'église, les églises d'Éphèse, Timothée. Il avait envoyé Timothée, qui était aussi son enfant dans la foi. Pour la Crète, il a laissé Tite. Et alors maintenant, nous voyons ces versets. Depuis le verset 5 au verset 16, nous allons les lire. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, donc ce que vous allez lire, ce sont les instructions de l'apôtre Paul. Ces instructions qui lui ont été confiées sur l'ordre du Dieu Sauveur, qui est notre Sauveur. Que tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni indisciplinés. Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain. Il y a cinq caractères négatif, hein, mais qu'il soit hospitalier, ça ce sont les caractères positifs, et on en trouve combien? 7, hein. Il y en a 5 qui sont négatifs, là, et 7 qui sont positifs. Qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Puis on continue. Il y a en effet surtout parmi les circoncis, et les circoncis c'était qui? Les juifs, beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs, et de séducteurs, ce qui s'était manifesté en particulier à Corinthe, hein, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'entre eux, leur prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchant bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, ils sont odieux et rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ça, c'est la traduction révisée de Second, la Bible à la colombe. Alors, nous reprenons maintenant les versets que nous avons lus. Je t'ai laissé, verset 5, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voilà maintenant la tâche que Paul a confiée à Tite. Il doit établir ce qu'il appelle la des anciens. Alors, qu'est-ce que l'on sait au sujet des anciens? Je vous invite à lire 1 Timothée 3, où il est question aussi des anciens. Là, les qualités négatives, comme les qualités positives, sont mélangées. Il y en a 14. Ça fait combien? 2 × 7 pour les anciens, si vous les mélangez dans Timothée. 1 Timothée, chapitre 3. On va lire ces versets. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une bonne œuvre. Il faut donc que le surveillant, c'est le même terme que l'ancien. La tâche d'un ancien, c'était de surveiller, de veiller sur les âmes. Il faut que le surveillant soit irrépréhensible ou irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Or, il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. Qu'est-ce que c'est le piège du diable? L'orgueil, hein? Bon. Alors, nous avons là un texte qui ne contredira pas celui de Tite. Maintenant, je vous demande encore de lire dans Pierre. Première épître de Pierre, une exhortation de l'apôtre Pierre. J'exhorte, chapitre 5, les anciens qui sont parmi vous. Ça veut dire qu'il y en avait qu'un? Non, il y a plusieurs anciens. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous. Moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances du Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous. Alors, qu'est-ce que doit faire un ancien? Il doit être capable de paître le troupeau de Dieu qui est avec les croyants. Le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, et comme ni comme dominant sur les héritages, mais étant des modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Voilà que nous apprenons que Pierre lui-même était un ancien. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est un ancien, vous pouvez méditer sur la vie de Pierre. Maintenant, prenez les épîtres de Jean. À la fin, après Pierre, vous avez les épîtres de Jean. Il y en a combien d'épîtres de Jean ? Trois. Hein ? Alors, à la deuxième épître, vous lisez au verset 1 du chapitre 1er, l'ancien, donc c'est qui ? C'est Jean. L'ancien à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. Cette vérité dont nous avons déjà dit quelque chose. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous à jamais. Maintenant, la troisième épître, c'est de nouveau l'ancien à Gaius, le bien-aimé, j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Voilà des exemples d'anciens. Alors, revenons à Tite. Et prenons le verset 6. Qu'est-ce qui doit caractériser un ancien ? Au verset 6, vous avez le 6 à 9, vous avez les qualités requises des anciens pour que Tite puisse les établir. Paul lui dit bien ce qui doit les caractériser pour qu'il sache s'il peut les établir ou pas. Puisque Paul n'avait pas pu faire ce travail, il confie ce travail à Tite. Et Tite n'est pas sans instruction maintenant. Alors, verset 6, quelqu'un est-il irréprochable? Alors, il parle d'abord des qualités extérieures pouvant être contrôlées par tous. Parce que qui est-ce qui peut être déclaré irréprochable? Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un d'irréprochable? C'est quelqu'un de qui on ne peut pas dire du mal. C'est connu de tous. Il est pécheur, c'est un pécheur, hein, même un homme irréprochable. Mais extérieurement, rien n'est dit qui puisse être prouvé ou accusé. Il ne peut pas être accusé. Donc, il y a d'abord les qualités, au verset 6, qualités extérieures, qui peuvent être contrôlées par tous. On sait ce qui se passe dans sa famille. Alors, regardez ce qu'il est dit au verset 6. Un homme irréprochable ou irrépréhensible, mari d'une seule femme. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'un ancien doit être mari d'une seule femme ? Quand on annonçait l'évangile aux païens, qu'est-ce qu'on trouvait ? Des hommes qui avaient plusieurs femmes. Alors, un homme qui avait plusieurs femmes, qui était polygame, est-ce que c'était cela que Dieu avait voulu ? Quand vous lisez dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai, il n'est pas dit des aides, une aide qui lui corresponde. Et qui est-ce qui a introduit la polygamie dans l'histoire humaine? C'est un descendant de qui? De Caïn. C'est un descendant de Caïn qui a introduit la polygamie. Donc, ça venait de Satan. La polygamie, elle vient de Satan. Mais aujourd'hui, les gens sont plus que polygames. Ils en ont combien de femmes? Alors, c'est évident que chez ces hommes-là, on ne peut pas trouver le caractère d'un ancien. Mari d'une seule femme. Si quelqu'un est mari d'une seule femme. Maintenant, ayant des enfants fidèles. Donc, pour être un ancien, dans ce temps-là, il fallait avoir des enfants. Pour quelle raison? Parce que quand on a élevé des enfants, on a déjà donné quelques preuves. Et alors, ces preuves, eh bien, c'est pas facile aujourd'hui, hein, mais c'est d'avoir des enfants fidèles. On a... Qu'est-ce que ça veut dire, avoir un enfant fidèle? C'est un enfant qui est converti. Et voyez-vous, chers amis, il faut que les parents amènent leurs enfants à la conversion. C'est un travail qui devrait nous préoccuper dès le début. À la conversion, à la foi, et puis à la piété. C'est-à-dire que l'enfant sache ce que c'est une relation avec le Seigneur. Ayant des enfants fidèles, c'était une des conditions que Tite devait rechercher, qui ne soit pas accusé de dissipation ou insubordonné. Et les enfants qui s'éloignent, eh bien, peuvent aussi réaliser qu'ils font beaucoup de tort au témoignage de leurs parents. Et cela aussi peut les retenir. Qu'est-ce qu'on a comme exemple d'un homme qui occupait une place en quelque sorte d'ancien et qui n'avait pas élevé ses enfants de la bonne manière? Élie, n'est-ce pas? Dans quel livre? Premier livre de Samuel. Il les laissait tout faire. De sorte que le prophète lui a dit, tu honores tes enfants plus que Dieu. Il honorait ses enfants plus que Dieu. Vous savez, c'est des fois difficile de résister à nos enfants. Chapitre 2 du premier livre de Samuel. Les fils d'Élie étaient des fils de Bélial, c'est-à-dire de Satan. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ça ne suffit pas de naître dans une famille chrétienne pour qu'on dise qu'on connaît l'Éternel. On connaît des vérités, mais il faut connaître la personne. La coutume des sacrificateurs à l'égard du peuple était celle-ci. Quand quelqu'un sacrifiait un sacrifice, le sacrificateur, le serviteur du sacrificateur venait, lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant en main une fourchette à trois dents, et il piquait dans la chaudière, ou dans le chaudron, et dans la marmite, ou dans le pot, le sacrificateur en prenait tout ce que la fourchette amenait en haut. Au fond, il était serviteur de Dieu, soi-disant, mais il se servait. Est-ce que nous sommes serviteurs de Dieu, ou bien est-ce que nous nous servons du ministère de la parole pour nos propres convoitises? Bien, c'était quelque chose de très grave. Alors, on savait à quoi s'en tenir. Il faut qu'il ait des enfants fidèles, qu'ils ne soient pas accusés de dissipation. Et quand on lit plus loin dans Samuel, le Seigneur lui dit, tu as honoré tes fils plus que moi. Tu as honoré tes fils plus que moi. Les fils ont passé avant lui. Et alors, verset 7. Car il faut que le surveillant, donc nous devons surveiller nos enfants, nous devons veiller à leur voix. Il faut que le surveillant soit irréprochable, comme administrateur de Dieu, pas seulement administrateur vis-à-vis des hommes, mais administrateur vis-à-vis de Dieu. Et le surveillant ou l'ancien que devait établir Tite n'était pas responsable vis-à-vis de Tite, ni responsable vis-à-vis de Paul qui avait envoyé Tite. Il était responsable vis-à-vis de qui ? De Dieu. Il était administrateur de Dieu, pas administrateur simplement d'une assemblée, pas administrateur parce qu'il aurait reçu de frères un ordre. Non, il est administrateur de Dieu. Il a affaire avec Dieu et sa vie est devant Dieu. Alors, non à donner à son sens, ça ne veut pas dire qu'il suit ses sens, mais il ne peut pas changer d'avis. On peut lui dire tout ce qu'on veut, il ne changera pas d'avis, parce qu'il a son sens. Il est adonné à son sens. Il a une interprétation d'une chose qui lui reste. Ce n'est pas ici adonné à ses sens. Hein. Notez bien, adonné à son sens. Vous avez la même traduction, je pense. Qu'est-ce qu'il est dit là, dans la vôtre? Oui, eh bien, l'arrogance, c'est se défendre de notre... On a un sens, le sens d'une chose, et alors on est arrogant. Mais littéralement, c'est adonné à son sens. Puis ensuite, donc il faut pouvoir changer de sens. J'ai ce sentiment-là, mais voilà que maintenant l'Écriture me montre que je me trompe là. Alors, ne pas être adonné à son sens, c'est ne pas suivre son opinion. Vous pouvez avoir une opinion, mais ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas le sens que vous lui donnez. Puis maintenant, non-colère. Hein. Qu'est-ce que vous avez, vous? Ni colérique. Il ne peut pas être colérique. Parce que s'il est colérique, il n'a pas d'autorité. Et puis, ensuite, non à donner au vin. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas boire un verre de vin. Hein. Mais être adonné au vin, ben c'est dépasser la mesure. Use d'un peu de vin, dit l'Écriture, pour ton estomac. À cause de tes fréquentes indispositions, disait Paul à Timothée. Pas à donner au vin, parce que le vin peut nous exciter et nous faire faire des choses mauvaises. Non batteur. Qu'est-ce que vous avez, vous?
Violent.
Violent, oui. Non avide d'un gain honteux. Qu'est-ce que c'est ça? On fait ces choses-là pour de l'argent. Hein? Pour de l'argent. Mais comment est-ce qu'on doit servir? Est-ce qu'on sert pour de l'argent? Est-ce qu'on fait du ministère d'ancien ou de pasteur un métier? Ça ne peut pas être cela. Ça ne peut pas être cela. Ça l'est souvent. Mais ça ne peut pas être cela. Quand on est appelé à prêcher, qu'est-ce qui nous appelle? Une église? C'est le Seigneur. Et si on n'était pas appelé par le Seigneur, on ne pourrait pas tenir. Alors vous voyez qu'il a bien des détails. Non à donner au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux. Alors maintenant que nous avons vu les qualités négatives qui doivent se manifester dans un ancien, on voit les qualités positives. Il doit être hospitalier. Alors, pour qu'il soit hospitalier, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'on puisse recevoir chez soi. Il faut avoir une maison, hein? Enfin, au moins un appartement. Hospitalier. Car l'exercice de l'hospitalité est recommandé dans l'Épître aux Hébreux, verset 1. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Qui, par exemple? Qu'est-ce qui a logé des anges, sans le savoir? Abraham, oui, bien non. Lot, hein? Lot, à son insu, il logeait des anges. Hein? Alors, n'oubliez pas l'hospitalité. Alors, un ancien doit pouvoir être hospitalier. Puis, il est dit, aimant le bien. Et ce n'est pas haïssant le mal. Hein? Parce qu'il est... Oui, ce serait vrai aussi, si vous voulez. Mais, s'il était dit haïssant le mal, de quoi serait-il occupé? Du mal, hein? Tandis qu'aimant le bien, il est occupé du bien. C'est ça qui est merveilleux. Aimant le bien, vous voyez, il y a des nuances. Hein? Ce n'est pas haïssant le mal, c'est aimant le bien. Aimant ce qui est juste, aimant ce qui est bon, ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alors, s'il aime le bien, la troisième qualité positive, il sera sage, il sera juste, il sera pieux, il sera donc équilibré, il sera continent, il ne prendra rien avec exagération, pas même des macaronis s'il les aime beaucoup, parce qu'il pourrait avoir une indigestion. On pense toujours incontinent que c'est seulement pour la boisson, non? C'est aussi dans le manger, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, la vraie doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un sain enseignement que de réfuter les contredisants. C'est donc toute une préparation. Donc, pour être ancien, il faut avoir ces caractères. Et alors, dans Timothée, il est dit, si quelqu'un désire devenir ancien ou surveillant, il cherche une bonne chose. Il désire une bonne chose. Il devrait y avoir, je dirais, chez tous les croyants, dans une assemblée, ces caractères-là. Et alors, s'il y a ces caractères-là, eh bien, l'homme qui les a pourrait désirer devenir ancien, qu'on le reconnaisse comme ancien. Mais c'est d'abord Dieu qui le reconnaît comme ancien. Et ici, chez Tite, qui est laissé là pour établir les anciens parce que Paul n'a pas pu le faire, eh bien, il a les renseignements pour voir parmi ceux, les chrétiens qu'ils rencontrent, ceux qui ont ce caractère pour exhorter, même les contredisants. Et alors, au verset 10, nous voyons au sein de quel personnage il peut se trouver. Il y a beaucoup d'insubordonnés et ils sont appelés des vains discoureurs. des séducteurs, principalement ceux qui sont de la circoncision, ceux qui venaient du judaïsme, auxquels, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut leur fermer la bouche. Il ne faut pas les laisser enseigner. Parce que il est dit qu'ils renversent des maisons entières. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans la prédication de l'Église primitive, il y a eu des maisons entières qui se sont converties. Lesquelles? À quelle maison pensez-vous? Qui? La maison de Corneille, oui. Et puis? Le gardien de prison, il est converti, lui, et toute sa maison. Et puis, dans le même chapitre 15, Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, mais qui habitait Philippe, elle avait une maison, elle fut convertie, elle et toute sa maison. Alors, il y avait des maisons entières qui s'étaient converties. Et alors, ces gens qui venaient du dehors, eh bien, ils essayaient de remettre ces personnes qui avaient connu l'Évangile, qui étaient libérées, ils essayaient de les remettre sous un joug. Ils apportaient une doctrine, et ils sont appelés des insubordonnés, des discoureurs, des séducteurs, principalement ceux qui sont de la circoncision. Et il dit qu'il faut leur fermer la bouche, car ils renversent des maisons entières, enseignant ce qui ne convient pas, enseignant pour un gain honteux. C'était l'argent qui comptait, et puis, je suis toujours surpris de recevoir tant de demandes d'œuvres dites du Seigneur, où on nous dit presque toujours qu'ils sont dans le rouge. Est-ce que c'est juste? Si c'est l'œuvre du Seigneur, est-ce que vous croyez que le Seigneur est dans le rouge? Le Seigneur donne ce qu'il ordonne. Or, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des gens qui pensent avoir une vision et qui pensent devoir faire quelque chose. Et alors, pour faire ce quelque chose, ils demandent de l'argent. Si c'est le Seigneur qui nous a ordonné de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il est pauvre. Et on n'a rien à demander. Et c'est quelque chose qui a rempli ma vie. J'en témoigne simplement. Un jour, je travaillais, j'étais célibataire encore, mais je travaillais pour le Seigneur dans une ville où il y avait 3000 tuberculeux. Et au bout d'un mois, en sortant d'une grande clinique, j'ai entendu le Seigneur dans mon cœur. Il y avait 2 mètres de neige dans cette ville-là, à 1500 mètres d'altitude, qui me disait « Fonde un foyer pour tuberculeux à l'aise. » C'est de la folie. Mais j'étais net. « Fonde un foyer pour tuberculeux à l'aise. » Et je sors parce que j'avais été invité par un homme qui avait plusieurs magasins dans cette ville que je ne connaissais que depuis 3 semaines. Et il m'avait dit, j'aimerais que vous veniez, c'était un croyant, que vous veniez dîner chez moi. Puis j'arrive chez lui à midi, mais moi je ne voyais pas mon visage, mais lui l'a vu. Et puis il me dit, qu'est-ce que vous avez? Votre visage rayonne. Je ne savais pas. Alors je lui ai dit, mais je l'ai rencontré, je n'ai pas dit plus. Et lui, tout de suite sur la même ligne, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je n'ai pas dit qui j'avais rencontré. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Fonde un foyer pour tuberculeux à l'aise. Cet homme ouvre ses bras, me prend sur son cœur, me serre, puis les larmes lui giclent des yeux, il avait 65 ans. Et il me dit, c'est 20 années d'exaucement de prière. Je dis, comment? Bien, il dit, moi, j'ai vendu beaucoup de choses aux malades, puisqu'il avait des grands magasins j'ai gagné de l'argent avec la maladie, mais j'ai toujours demandé à Dieu qu'il permette qu'un jour arrive à Lézin un homme qui soit préparé pour servir le Seigneur parmi les malades. Ton foyer, il me tutoie, j'en prends la charge. Une demi-heure après que j'ai entendu me dire « Fonde un foyer pour tuberculeux à Lézin », je ne peux pas nier cela. Ça ne s'est pas passé au siècle dernier. Je crois encore au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à un Dieu qui peut nous répondre quand c'est lui qui a une œuvre à accomplir. Ce n'est pas moi qui avais pensé à cela. Mais le Seigneur me montrait ces malades entre les cures qu'ils font. Ils n'ont que le cinéma pour y aller, hein, ou le bistrot, mais il n'y a pas un foyer à Lézin, il n'y avait pas de foyer pour les tuberculeux. Et alors il me dit, mais pour avoir un foyer, comme nous ne sommes pas catholiques, on n'a pas les sœurs pour tenir le foyer, il faudrait que tu sois marié. Et voilà, c'est comme ça que 3 mois après j'étais marié. Parce qu'il me dit, mais est-ce que tu connais quelqu'un? Oui, je connais une veuve qui a 2 petits-enfants. Et si je devenais père de ces petits, eh bien, ça m'inciterait encore davantage au mariage. Alors, merci beaucoup, Joseph. Voilà. Quand Dieu ordonne, il le donne. Je vous dis juste ça, mais ça se passait au mois de, fin du mois de janvier, et puis au mois de septembre, nous étions installés à Lézin, où j'ai travaillé pendant 7 années comme aumônier parmi les tuberculeux. Le Seigneur donne ce qu'il ordonne. Verset 12. Et donc, il ne faut pas enseigner pour un gain honteux. Ce n'était pas un gain honteux. Le Seigneur avait touché le cœur de cet homme. Verset 12. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, on est de nouveau chez les Crétois, hein, et je vous ai dit qu'on, comme c'était des menteurs, les Crétois sont toujours menteurs, et on avait fait ce mot Crétois. Comment ? Crétoisé, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprend les vertements, afin qu'il soit sain dans la foi, parce qu'il y en a qui disent que c'est une œuvre de foi, mais si c'est une œuvre de foi, il n'y a pas besoin d'en parler, on le sait, et le Seigneur s'en occupe. Ne s'attachant pas aux fables judaïques, aux commandements des hommes, qui se détournent de la vérité. Puis alors, faites attention, verset 15, ne le sortez pas du contexte. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur, mais leur entendement et leur conscience sont souillés. De quoi est-ce qu'il parle quand il dit toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs? Eh bien, ces gens venaient dire, ne mange pas ceci, ne mange pas cela, parce que ce n'est pas une bonne nourriture. Eh bien, on se remettait, et vous savez, il y a cette tendance aujourd'hui, hein, au sujet de l'alimentation. Je ne dis pas que tout est faux, mais il y a une tendance qui a l'air de prétendre qu'il y a des choses qu'on ne devrait absolument pas toucher. Alors on se met sous une loi, et ça devient une espèce de divinité. Et c'est un signe des derniers temps. 1 Timothée 4. L'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi. C'est plus de la foi qu'il est question. S'attachant à des esprits séducteurs, des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Car toute créature de Dieu est bonne. Il n'y en a aucune qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce. Elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. En proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. Donc, il n'est pas question de voir toujours des choses impures dans ce que nous pouvons manger. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont souillés et les incrédules, rien n'est pur. Mais leur entendement et leur conscience sont souillés. Vous retrouvez le texte de 2 Timothée. Ils professent, alors attention, ils professent de connaître Dieu. Mais est-ce qu'ils le connaissent? Mais par leurs œuvres, ils le renient, étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toute bonne œuvre réprouvée. Vous n'avez pas à vous remettre sous un joug. Voilà ce que Tite devait enseigner. Nous allons nous arrêter là. Et puis nous continuerons notre étude. Est-ce qu'il y a des questions? Nous croyons que ta parole veut pénétrer nos cœurs et que tu nous garderas saints dans la foi, saints aussi dans la sagesse, afin que nous comprenions que nous n'avons pas à inventer des œuvres pour toi, mais à obéir à ta parole qui nous dit que nous avons à marcher dans des bonnes œuvres que toi tu as préparées d'avance.